Bonjour Lisello.
Bonjour.
Lors de son premier discours d'adieu mercredi, Moussa Faki Mahamat a invité les chefs d'État de l'Union africaine à se ressaisir. Il s'est montré inquiet pour la survie de l'organisation. Est-ce que le rêve d'une institution panafricaine forte est menacé aujourd'hui?
C'est vrai que nous voyons ces dernières années des États qui ne voient franchement pas l'intérêt de l'Union africaine pour eux, pour les processus de paix. Donc ce sont des organisations régionales qui pour la plupart gèrent les conflits dans leur région. Nous avons 6 États suspendus de l'Union africaine à cause des coups d'État. Il y en a peut-être un ou deux qui éventuellement vont revenir, mais surtout les États de l'AES maintenant sont isolés et nous voyons le dialogue entre l'Union africaine et ces États ne sont pas vraiment entamés. Donc je pense que l'Union africaine de son côté n'a pas montré vraiment son efficacité.
Comment expliquer cet affaissement?
On peut critiquer Moussa Faki Mahamat et son staff de ne pas avoir été vraiment en avance, par exemple sur le conflit du Soudan. C'est le conflit avec l'impact humanitaire le plus grave au monde, mais on n'en parle pas. Au minimum, on aurait voulu voir l'Union africaine mettre l'accent sur ces graves conflits dans toutes les réunions à l'ONU, dans les réunions internationales, mais aussi, bien sûr, nous sommes dans un contexte international où le multilatéralisme vraiment est en crise. Donc, c'est pas totalement aussi le faute de l'Union africaine, mais d'autres facteurs internationaux.
Est-ce que l'élection de Donald Trump aux États-Unis rend l'Union africaine encore plus seule face à tous ces défis?
C'est vrai que c'est très inquiétant parce que c'est un peu imprévisible. On ne sait pas quel va être l'impact, par exemple, sur la force de l'Union africaine en Somalie, qui dépend beaucoup de financement de l'ONU. Et les États-Unis sont un grand financement du budget des opérations de paix de l'ONU. Ça peut avoir un impact, mais ça ne va pas vraiment avoir un impact direct sur l'Union africaine en tant qu'organisation.
Au cœur de ce sommet, il y a bien sûr le conflit dans l'est de la RDC avec un risque de déflagration régionale. Le Conseil paix et sécurité a entériné hier la fusion des processus de Luanda et Nairobi. Est-ce que c'est une bonne idée?
C'est une bonne idée s'il n'y a pas trop d'initiatives parallèles, trop de médiateurs. Et l'inquiétude, c'était un peu que le processus de Luanda ne disparaisse parce que l'EAC, à un moment donné, voulait un peu que le processus de Nairobi soit le seul processus. Donc, convaincre la RDC de dialoguer avec le M23. Mais nous pensons aussi que c'est aussi important. C'est le processus de Luanda parce que c'est le dialogue entre la RDC et le Rwanda qui, aujourd'hui, le Rwanda soutient le M23.
Mercredi, le Rwanda a échoué à obtenir le poste au sein du Conseil paix et sécurité que le pays briguait. Le Rwanda est arrivé troisième derrière l'Éthiopie et la Somalie. Est-ce qu'il faut y voir une forme de sanction de la part des États membres?
C'est possible. C'est vrai que le Congo, RDC, est toujours un membre pour 2 ans. Donc, si le Rwanda s'est joint au Conseil de paix et de sécurité, ça aurait été une opportunité pour le Rwanda d'éventuellement bloquer d'autres initiatives du Conseil de paix et de sécurité. Le Rwanda, depuis beaucoup d'années, très influent ici à l'Union africaine. Surtout le président Paul Kagame qui gérait les réformes de l'Union africaine. Et donc, on peut voir ça éventuellement comme un manque de poids et de l'influence, mais il faut aussi se rendre compte que c'est un jeu parfois des États. Donc, les autres membres peuvent par exemple, soutenir un candidat pour un commissaire en échange d'un vote au CPS. Donc, on ne peut pas déduire toujours que, par exemple, un pays a perdu de l'influence parce qu'il a pu gagner ailleurs. Mais quand même, je pense que le Rwanda ne devrait pas être content de ne pas avoir été élu.